One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go anywhere.
Bonsoir, vous écoutez les bébés dinosaures. Sur Canal Sud 92.2. Les bébés dinosaures, l'émission de rock 70s de Canal Sud. Rock au sens très large. Avec ce soir encore Tommy Boy en vadrouille, quelque part au Vietnam, qui nous écoute ou qui nous écoutera en tout cas quand même, et puis qui communique avec moi par télépathie, évidemment, chaque fois que je dis une bêtise, ce qui arrive quand même régulièrement. J'entends un petit hurlement de dinosaures dans mes oreilles là. Et donc je vais pousser les disques tranquillement. Il y aura peut-être la visite de Luc tout à l'heure. Et puis il y aura les rubriques habituelles, rubrique folk en fin d'émission, la rubrique digit, quelques classiques pour démarrer. Et puis ce soir, je crois qu'il y a 4 ou 5 groupes ou artistes qu'on n'a jamais passé dans l'émission. Ça devient un peu rare quand même, hein, les groupes qu'on n'a jamais passés. Bah là, il y en aura quelques-uns avec un petit fil rouge, on va dire, autour de Sky Saxon, qui était plutôt évidemment une gloire des 60s, hein, ça je dis pas le contraire, hein, c'était le chanteur des Seeds, bien sûr, mais qui a quand même été actif dans les années 70 d'une manière un peu surprenante. Donc nous en reparlerons tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'écouter des classiques des bébés dinos, des groupes qu'on passe très souvent. Ce sera un petit pirate d'ailleurs, enregistré à la BBC. Je ne dis pas encore le nom du groupe. Vous allez écouter l'introduction, ma foi, assez spectaculaire, de Peter Drummond, qui devait être le journaliste à l'antenne ce jour-là. L'émission apparemment s'appelait le Mike Mansfield's Super Pop Show. C'était en 1976, et Peter Drummond est accompagné d'une dame qui s'appelle Dame Edna Beveridge, qui finit la présentation du groupe. Et je vous reparlerai ensuite de Dame Edna Beveridge. C'est un personnage intéressant. Voilà, le groupe Mystère, enregistré à la BBC en 1976.
Welcome to another In Concert program, and tonight we have two bands, both from the Antipodes, which is in the southern hemisphere somewhere, around the Australia part of the world. And I think to introduce them, we ought to have this magnificent lady who's standing next to me. She knows more about them than I do.
Well, thank you very much indeed, Peter. Very nice, and it's nice to see you in your shorts and your beautiful knees and everything. And I know this first band, everybody's going to love them, because really they're one of the most sensational bands to come out of Australia. And you know that Australia's produced quite a lot of good things in the last 3 or 4 years at least. So ladies and gentlemen, a big warm welcome for AC/DC.
Thank you.
AC/DC, donc la BBC en 1976, le pirate BBC Radio 1, London, 4 morceaux et qui sont souvent couplés à un autre passage à la BBC de 76 aussi, à peu près à la même époque, c'était l'été 76, pour faire un album complet. Et donc Dame Edna Beveridge qui présente AC/DC avec un certain Peter Dorman, cette dame avec une voix un peu bizarre, c'était en fait un humoriste australien qui s'appelait Barry Humphries et qui avait créé ce personnage en 1955 de dame très bourgeoise avec des lunettes totalement extravagantes et puis une chevelure rose qui bien sûr d'après elle était sa couleur naturelle. Et qui était le personnage créé en 1955. Donc il a fait beaucoup de télévision, il était très connu en Australie, mais aussi en Grande-Bretagne. Il a animé la cérémonie du jubilé d'or de la reine en 2002. Et il était aussi au jeu du Commonwealth en 2006. Donc c'était une espèce de star en Grande-Bretagne et en Australie, qui introduisait de manière, ma foi, tout à fait spectaculaire AC/DC donc pour leur premier passage à la BBC. En 1976, ils y sont revenus au moins en 1980, peut-être qu'il y a d'autres enregistrements de la BBC. Alors là, on parle bien sûr d'AC/DC, le vrai AC/DC, celui avec Bon Scott au vocaux, évidemment. Donc, on va s'écouter maintenant un petit classique, toujours, on va rester en Grande-Bretagne, avec Status Quo. Et ma foi, mon morceau préféré de tous les temps de Status Quo, qui n'est peut-être pas celui de tous les fans de Status Quo, hein, bon. Mais c'est un des premiers morceaux que j'ai entendu d'eux, à vrai dire, et ça m'avait scotché. Et j'ai vérifié, on l'a déjà passé 6 fois dans l'émission. Alors bon, d'accord, ça fait beaucoup, mais bon, en 30 ans, plus de 30 ans d'émission, 91, ça fait 33 ans, alors c'est une moyenne de tous les 5 ans et quelques mois, bon, allez, c'est acceptable. Donc on se le réécoute.
Left behind.
Dundula de Status Quo, donc sur l'album Dog of Two Head. Le premier album de... Non, c'est pas le premier. Le premier album que j'ai eu de Status Quo, c'était le double disque d'or. Une espèce de compilation, mais des tout débuts de Status Quo et encore des morceaux pop et des morceaux des deux premiers albums qui viraient Boogie. Ça, c'était Dog of Two Head. Ça a été le deuxième album de Status Quo que j'ai eu acheté au marché. Je me souviens du bug. Donc, Dog of Two Head, un des tout débuts, le deuxième album, disons, de Status Quo, version Boogie. Et c'est un morceau très bizarroïde qui n'est pas de... Il faudrait quand même que je me penche sur la version originale, ça doit bien exister quelque part. Et on voyait les liens qui ont un petit peu disparu par la suite entre Status Quo et Folk Celtic. Ça donne envie de danser le plin, cette chanson. Bref, gardons-nous là, donc Status Quo vers 70, quelque chose comme ça. 71. Et bien, une petite rubrique maintenant. Like a rolling stone. Eh ben oui, ça sera la rubrique Rolling Stone, avec le jingle de la rubrique Digit, hein, mais qui peut faire double emploi, évidemment. Donc d'entrée, on va se passer notre petit Rolling Stone annuel hebdomadaire, hein, puisque les Stones sont notre groupe de l'année jusqu'à Halloween prochain. Et qu'on s'écoute des Stones, alors, un peu en vrac, dans, sans ordre particulier, à vrai dire. En explorant surtout, évidemment, leur discographie 70s, il y a quand même de quoi faire. Et avec ce soir un morceau qu'on a déjà passé dans l'émission. Oh là là. Mais j'ai longtemps cru que ce CD... que j'ai depuis très longtemps, que m'a fait peut-être Tatane ou Gilda il y a une éternité, qui s'appelait Nasty Music, pirate, était en fait le Bruxelles Affaire de 73. J'en étais persuadé, donc on a passé cette version de Street Fighting Man, mais en précisant que c'était celle de Bruxelles en 73. Mais j'aurais pu vérifier, mais depuis longtemps, un peu par hasard, j'ai vérifié sur Discog et... Sur plusieurs versions de ce disque, Nasty Music, il précise que en fait, il n'y a qu'une partie des morceaux qui ont bien été enregistrés à Bruxelles, le 17 octobre 73, lors du premier show, mais que d'autres proviennent d'un concert de 72 au Madison Square Garden. Des morceaux d'ailleurs, il y en a 4 sur ce CD, qui auraient donc été enregistrés à New York et qu'on retrouve sur le pirate Welcome to New York, qu'on a déjà écouté. Quatre autres morceaux qui sont enregistrés au Wembley Empire Pool à Londres en septembre 73. Donc, la version de Street Fighting Man fait partie de ces morceaux enregistrés, semble-t-il, à Londres et non pas à Bruxelles, un petit peu avant le concert de Bruxelles, donc en septembre 73. Alors, on se le réécoute, c'est cette version assez épique quand même de Street Fighting Man qui se termine là par des déchirades de guitare assez monstrueuses. Et c'est Mick Taylor, hein, bien sûr, là, à cette époque-là. Et donc, on va se leur écouter. Alors, c'est quand même une meilleure version de Street Fighting Man qui existe. Et même si elle n'est pas enregistrée à Bruxelles, on se la réécoute quand même. Donc, c'est la grande info Rolling Stone de ce soir. Sur Nasty Music, il n'y a pas que des morceaux enregistrés à Bruxelles, figurez-vous. Celui-là a été enregistré à Londres. Oup, et c'est, je sais plus de quel côté, c'est par là.
Yeah.
Les Rolling Stones, donc, sur le CD Nasty Music, ou l'album Nasty Music, je ne sais plus en quelle année c'est sorti, mais c'est assez ancien. Ce... Je vais peut-être noter Nasty Music. Ah non, je n'ai pas noté. Bref, c'était enregistré à Wembley en 1973. À Wembley, enfin, au Wembley Empire Pool. À Londres en tout cas, en 73, et non pas à Bruxelles comme je l'ai tout le temps cru, longtemps cru en tout cas, depuis toujours, depuis que j'ai ce CD. Et comme je l'ai dit à la radio à plusieurs reprises, donc je ferai un peu plus attention maintenant. Et donc ce Nasty Music ne rassemble qu'une partie des concerts de Bruxelles de 73. Mais par contre toutes les versions sont très bonnes et très tendues, c'est un très bon disque. Et maintenant, Sky Saxon, donc, Sky Saxon, leader des Seeds, avec ce tube Pushing Toward, qui a eu quand même une grosse influence sur tout le garage américain, et d'autres tubes par la suite, No Escape, un petit peu dans le même genre, donc des morceaux courts, garage avec orgue, mais qui a viré assez rapidement psychédélique, voire un peu heavy psyché même. Là, on va retrouver les Seeds... un petit peu vers la fin de leur carrière avec leur album live qui s'appelle Raw and Alive Merlin's Music Box et qui est sorti en 68, donc c'est dans notre période temporelle, mais c'est aussi, on voit qu'il y a un petit, que le son se muscle quand même aussi. C'est un peu une des caractéristiques de l'année 68, là, c'est quand même la fin du flower power, là, les sons deviennent plus velus. Et puis par la suite Sky Saxon a continué vaguement avec les Seeds. Il y a eu des enregistrements tardifs en 72, je crois. Des 45 tours, mais pas grand-chose quand même. Et puis un trou, un gap là, entre 73, disons, et 77-78. Qu'est-il devenu à ce moment-là? Ah ben ça, je vous le raconterai plus tard. Là, on le retrouve en 68, donc, avec les Seeds. Et un de ces morceaux psyché évolue, très hypnotique, qu'on n'a jamais passé dans l'émission apparemment. Gypsy Plays His Drums, c'est pourtant un des grands morceaux de cet album. Les Seeds en public.
Yeah!
Gypsy Plays His Drums, avec Can't Seem to Make You Mine, un autre énorme tube des Seeds, juste après. C'était donc les Seeds live en 68. On retrouvera Sky Saxon tout à l'heure. Enfin, on en reparlera d'abord, puis ensuite on le retrouvera en tant que musicien, on va dire. En attendant, on a passé les Stones. Alors là, il y a David Peel qui surgit et qui dit « Quoi, les Stones? Bring back the Beatles !» On va s'écouter donc un extrait de « Bring back the Beatles » de David Peel and the Apple Band. Il a sorti 3 albums sous le nom de David Peel and the Apple Band, dont un qui est totalement introuvable, « The Battle for New York » en 1994, et le fameux « John Lennon Forever » qui n'est jamais sorti réellement, mais qu'on peut trouver sur le net, sous la forme d'une espèce de CD, démo, écrit à la main. C'est la seule version, semble-t-il, qui existe de ce disque, mais maintenant elle a été numérisée, mise sur le net, et on peut en profiter. Le premier album, donc, sous le nom de David Peel and the Apple Band, c'était Bring Back the Beatles. Rappelons qu'il a sorti un album en 73, je crois, 72, 73, The Pope Smokes Dope, qui était produit par John Lennon et Yoko Ono. Et c'était... John Lennon était fan de David Peel, et David Peel était un grand fan de John Lennon. Il fera donc cet album John Lennon Forever en 2001, dédié à son idole. Et là, sur Bring Back the Beatles, oh, il fait un petit peu de tout. Il revisite Imagine, il fait un morceau sur la vie de McCartney, et d'autres morceaux en lien avec les Beatles. Mais l'album commence par The Pledge of Allegiance, et oui, suivi du morceau qui donne son titre à l'album, Bring Back the Beatles.
I pledge allegiance to the Beatles from Liverpool in Great Britain and to the whole world that wants them back as the Beatles, John and Paul, George and Ringo, forever!
Beatles.
Back the Beatles. C'était David Peel and the Apple Band en 1977. Sur l'album du même nom, donc Bring Back the Beatles. Là maintenant, on va faire plaisir à notre auditeur fan de Frank Zappa qui avait appelé la semaine dernière. Et on va s'écouter à nouveau du Zappa et à nouveau un morceau sur les groupies parce qu'il en a, il en a fait plein. C'était une de ses obsessions. Tiré cette fois de Joe's Garage, l'opéra rock de 79, là, en trois parties. Enfin, d'abord un vinyle simple, je crois, après un double vinyle. Act 1, Act sur le premier vinyle, Act 2 and 3 sur le deuxième vinyle. Ça a dû être 300 000 en CD, tout ça, j'imagine. Une espèce d'opéra rock complètement déjanté, venant du futur, une espèce d'entité maléfique, là. Qu'il appelle The Central Scrutinizer, nous informe que la musique est interdite et que ce disque est en fait une sorte de propagande pour expliquer pourquoi la musique est une abomination et qu'il faut à tout prix l'interdire. Et donc, ça met le personnage principal, Joe, qui, au début de l'histoire, joue dans un groupe dans son garage, le Joe's Garage. Il va lui arriver des tas d'aventures, bien sûr, toutes plus croquignolesques les unes que les autres, et avec un humour assez corrosif, Zappa dénonce la censure, le Big Brother qui vous espionne, et fait une ode, disons, assez libertine à la musique. Tout en faisant croire le contraire. C'est assez drôle. Faut quand même suivre l'histoire. Là, c'est un peu compliqué et puis c'est un peu tordu. Là, on en arrive donc au début de l'acte 1. Là, c'est la quatrième scène avec le morceau Crew Slut. Où, alors Joe, je sais plus trop ce qu'il est devenu après ces histoires là, de flics qui ont encerclé le garage où il jouait de la musique après les plaintes des voisins. Mais là, c'est Larry qui était un membre du groupe, je crois, et puis qui est devenu Roddy ou un truc comme ça, et qui rencontre Mary, qui est une catholique, mais pratiquante sans doute, mais qui pratique d'autres choses aussi, et notamment qui va devenir groupie. Ou qu'il est déjà au début, je ne sais plus trop, il faudrait que je relise tous les textes, là, je ne me rappelle plus trop. Bref, dans cette chanson, en tout cas, Larry propose à Mary de la suivre, de partir de ville en ville le repos, assurer le repos des guerriers, les musiciens et les roadies. À la fin, il lui offre un cadeau. Alors là, il y a quand même un truc que je suis allé voir sur Internet. Là. Ouais, on a un cadeau pour toi, dit Larry. Ouais, qu'est-ce que c'est et tout. Tiens, regarde, ça ressemble à un Telefunken U47. Tu vas adorer ça. Mais qu'est-ce qu'un Telefunken U47? En fait, c'est un micro. Qu'est-ce qui peut bien ressembler à un micro qui va satisfaire notre amie Mary, la catholique? Ça, je vous laisse deviner. Le morceau Crew Slut, donc, de Frank Zappa, en 1979, l'année où il avait sorti aussi Shake Your Booty. Et je crois qu'il a sorti cette année-là 5 albums. Frank Zappa. Donc c'est celui qui veut avoir la discographie complète, il faut quand même qu'il s'accroche. Joe's Garage, donc, en 79, Frank Zappa, le morceau Crew Slut.
Mary didn't show up. She was sucking cock backstage at the armory in order to get a pass to see some big rock group for free.
Fuss, just get on the bus.
Crew slut.
Add water, makes its own sauce.
Be a crew
So don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. Squash it, and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys and the crew are only waiting for you. Rubber too, shrink tubing with a hairdryer.
Watch a spot on the bench for a guy with a wrench and be a groove.
You like that, huh? I told you you'd love it. It's a way of life.
Guys in the crew have got a present for you.
Like a Telefunken U-47. You'll love it.
With leather.
Crew Slut, c'était donc Frank Zappa. Maintenant, on va s'écouter un peu de pub rock matinée de country avec Chili Willy and the Red Hot Peppers Un groupe qu'on a souvent passé, surtout leur deuxième album. Ils en ont fait que deux, je crois. Hein. Ouais, deux albums entre 72 et 75. Le deuxième, Bongos Over Balaam, là, on a souvent passé celui-là. Et bon, il y a eu ensuite des compiles, des choses comme ça, mais c'est un groupe assez éphémère, britannique. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Goodbye Nashville, Hello Camden Town. Camden Town est un quartier de Londres, bien sûr, où il y a le marché notamment, un marché célèbre. Et c'est aussi le nom d'une compile qui est sortie il n'y a pas très longtemps, un double CD, sorti en 2017, avec 48 morceaux, et qui est une compilation de pub rock, mais de pub rock britannique donc. Mais sans oublier tout le versant country de ce pub rock. Alors il y a les classiques, les Pirates, les Count Bishops, les Dr. Feelgood bien sûr, et The End of the Road, etc. Et puis il y a aussi des trucs plus country, alors des trucs connus comme Brent Schwartz qu'on a déjà passé quand même de temps en temps, les Bébé Dino, les Carcel Flyers, et des trucs un peu plus obscurs quand même, là, Exuber Easy, les Mill Ticket, enfin bon, des trucs qu'on va découvrir je pense dans la semaine qui vient. C'est une très bonne compile. Il y a le Tyler Gang aussi bien sûr, les Donliner Sect. Bref, c'est tout un éventail de la scène pub rock, mais avec tous ces groupes country. Enfin, en tout cas, influencé par la country, qui faisait partie de cette scène, puisque la scène pub rock, c'était pas vraiment un genre musical, c'était plutôt des petits groupes qui jouaient dans les pubs un peu partout à Londres et en Angleterre, et qui tournaient dans le même circuit, quoi. Là, on va s'écouter donc les Chilly Willy avec le morceau qui donne son nom à cette compile, mais qui n'est pas sorti de manière officielle, il n'est pas sur les deux albums, ce morceau. Il se retrouve sur une compilation de Chilly Willy dont j'ai oublié le nom, et c'est un morceau, c'est une démo en fait qui a été enregistrée sans doute un petit peu vers la fin du groupe, alors disons 74-75, un truc comme ça, et on retrouve ce morceau sur cette compile là donc dont je viens de parler, mais aussi sur d'autres compiles dédiées à Chilly Willy. Goodbye Nashville, Hello Camden Town, donc vers disons le milieu des années 70, le groupe Chilly Willy and the Red Hot Peppers.
I play piano and band in Boston. I fiddle in L.A. I play the blues in San Diego, right up Frisco Bay. Now I'm coming back again. She ain't been found, so it's goodbye Nashville, along Camden Town.
Billy Willie and the Red Hot Peppers. Donc, Goodbye Nashville, Hello Camden Town. Et on reviendra sur le c'est un morceau, donc, une démo de la fin des années 70, pas la, le milieu des années 70. Ils ont splitté en 75. Si ce sont des démos qui ne sont pas sorties, on peut supposer que ça a été enregistré un petit peu avant, quoi, 74-75. Et donc, on reviendra sur la compilation auquel ce titre a donné son nom. Cette compilation de pub rock là, sortie en 2017. Dans les semaines qui viennent, il y aura de quoi faire, il y a plein de pépites là-dessus. En attendant, une petite rubrique. Ah, on l'a déjà faite, celle là-haut. Cette fois,
like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby, dig it.
Cette fois, c'est bien la rubrique Dig It, dédiée donc à cette émission de radio mythique de Canal Sud, d'éphémère avant, qui s'est arrêtée en 2017, je crois, qui était drivée par Gilda et auquel on rend hommage toutes les semaines. Et en passant des morceaux, alors soit des morceaux qu'on passait à l'époque dans Dig It, soit des morceaux qu'on aurait pu passer dans Dig It, soit des morceaux liés à l'univers de l'émission Dig It. Et aujourd'hui, un groupe qu'on n'a, je crois, jamais passé dans l'émission Les Bébés Dinosaures, mais qu'on passait très souvent au tout début de Dig It, parce que j'ai exhumé certaines vieilles cassettes que j'avais enregistrées avec Nathalie et Jean-Luc à l'époque des toutes premières émissions de Dig It. On enregistrait, on coupait certains morceaux parfois, et certains, les commentaires en général, et on se faisait des best-of comme ça. Donc j'ai toutes les premières émissions Dig It résumées en quelque sorte, et je me suis aperçu, en regardant la cassette numéro 1, qu'on écoutait beaucoup, qu'on passait beaucoup ce groupe qui s'appelait King Missile. Alors au tout début, on n'était pas encore dans l'émission, hein. Donc c'était plutôt Gilda qui passait beaucoup ce groupe appelé King Missile, et notamment l'album Mystical Shit, paru en 90 d'ailleurs, leur troisième. Alors, c'était un groupe assez zarbi, hein, qui était présenté plutôt comme un groupe de hard rock ou d'avant-garde, qui a fait des trucs très bizarres, et c'était essentiellement le chanteur John Hall qui a continué par la suite. Il a drivé différentes incarnations du groupe avec des tas de changements de line-up, au moins jusqu'en 2015. Je crois qu'il y a eu presque une douzaine d'albums. Il est parti dans des trucs, alors en changeant plus ou moins le nom du groupe aussi. Puis il y a King Missile 1, King Missile 2, King Missile 3. À la fin, c'était une musique un peu électronique, pas très intéressante. Mais sur cet album, Mystical Shit, c'est un truc complètement déjanté, avec beaucoup de morceaux parlés, avec beaucoup de grosses guitares. Et ma foi, ça a plutôt bien vieilli. Alors voici le tube, il y en a plusieurs sur ce disque, mais le tube qui est passé le plus souvent à Dig It, même si sur les premières émissions, Gilda a passé au moins 5 ou 6 morceaux de cet album, peut-être même plus. Le tube, c'était quand même Rock and Roll Will Never Die, ce qui est quand même un programme qui évidemment était tout à fait adoubé par le Dig It staff. Hein. Rock and Roll Will Never Die, donc King Missile en 1990. C'était sur Chimidisc. Chimidisc, c'était quand même le groupe de le label de Shockabilly, de Daniel Johnstone ensuite, et de Tad Allumé, qui n'était pas piqué des hannetons. Là. Donc, King Missile, ça y est, cette fois, le lancement est prêt.
I'm sorry.
avouer quand même que sa dépote est grave. Rock and Roll Will Never Die. Un des tubes de King Missile, donc, que Gilda passait abondamment dans les toutes premières émissions de Digit, à l'époque c'était sur Éphémère. Avec d'autres morceaux de ce disque que j'ai réécouté et qui, ma foi, a bien vieilli. Ce qui est quand même le cas de à peu près tous les disques qu'on passait dans Digit, il faut bien le dire. Ça, c'était donc un album sorti en 90. 90, c'était les débuts de l'émission de Digit. Tout à l'heure, on se demandait ce qui était devenu Sky Saxon, donc vers 72, 73, là, quand les sites n'ont plus donné trop de nouvelles. Eh bien, il a un peu pété les plombs et il s'est retrouvé dans une secte qui s'appelait The Source Family. Alors une secte pas forcément parmi les plus abominables, qui avait apparemment rien de trop apocalyptique, drivée par un bonhomme appelé Father Yod, qui était plutôt âgé, un peu bedonnant, avec une grande barbe de prophète, comme un peu tous les leaders des sectes hippies de cette époque, quoi. Bon, lui, ce qui est étonnant avec cette secte, disons, qui s'était installée du côté d'Hollywood Hills, puis qui ensuite s'est déménagé vers Hawaï, en faisant des allers-retours, parce qu'à Hawaï, apparemment, ils n'étaient pas très bien vus, donc de temps en temps, ils revenaient en Californie, puis ils repartaient, etc. Ce qui est particulier, c'est que cette secte avait formé un groupe. Un groupe qui avait différents noms. Father Yod était chanteur, on va dire, et percussionniste. Et puis, d'autres membres de la secte étaient musiciens. Là. Alors, tout d'abord, le nom du groupe a été Father Yod and the Spirit of 76. On est en 73. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'esprit de 76, c'est pas encore. Hein. Ils ont sorti 4 albums. Alors, c'était des albums qui faisaient de manière assez artisanale, hein, 500 000 exemplaires apparemment. Et puis, ils étaient vendus dans le restaurant végétarien que tenait Father Yod, parce qu'il fallait quand même un peu des sources de revenus, quoi. Donc, ils le vendaient dans le resto. Et ils n'ont pas été commercialisés à grande échelle, évidemment, ces disques. Ensuite, le groupe a changé de nom. C'est devenu Yahowah 13. Yahowah, l'écriture la plus répandue, c'est en trois mots. Y-A, plus loin O-H-O, plus loin W-A-H. Yahowah 13. Et là, ils ont sorti au moins 9 albums. Mais il paraît qu'il y en a 65 qui ont été enregistrés. Et que tous les autres se sont perdus, ou sont jamais été vraiment pressés en vinyle. Enfin, bref, il y a des tonnes et des tonnes de bandes, semble-t-il, de Yahowah 13, sous ces différents noms. Et alors, notre ami Sky Saxon, il aurait participé à ces disques, alors, sans jamais être crédité. Sauf après la mort du gourou. Il est mort d'un accident de deltaplane. Il faut l'inventer, ça aussi. Un accident de deltaplane à Hawaï, en 75. Et alors, la secte, je ne sais pas trop si elle a continué, mais en tout cas, le groupe a continué, puisqu'ils ont sorti 3 autres albums par la suite, en changeant de nom. Et le premier album où Sky Saxon est crédité, c'est un album de 77 qu'on écoutera tout à l'heure. Mais là, on va revenir sur Yahowah 13. Alors, peut-être que Sky Saxon jouait. Il paraît qu'il était probable qu'il jouait sur certains disques, mais bon, il n'était pas crédité, donc on ne peut pas le savoir de manière sûre. Alors, il faut savoir que les musiciens, réguliers de Yahowah 13, c'était Father Yod au vocaux, mais il n'était pas tout le temps là. Des fois, il laissait les musiciens se débrouiller. Il y avait Gene Aquarian à la guitare, Octavius Aquarian à la batterie et Sunflower Aquarian à la basse. Mais des fois, ils étaient aidés de Lordi Aquarian, de Zoroaster Aquarian, ou alors Homme Aquarian, Rhythm Aquarian, Pythias Aquarian, Aquariana Aquarian, je préfère, à Homme Aquarian ou Electron Aquarian. Voilà, c'était la bande qui tournait autour de ces 3 musiciens de base. Et donc, j'ai trouvé ça sur un blog, hein. Do it yourself, DIY, je sais plus quoi. De toute façon, si vous tapez Yahowah 13 sur internet, vous les trouverez. Et le gars du blog est un fan, visiblement, hein. Mais il décrit la musique de Yahowah 13, en tout cas d'un des albums dont on va s'écouter un extrait, le premier album de Yahowah 13, sorti en 73. Il dit que c'est ce que devrait toujours être le rock'n'roll. Ce rare minimum de folie liquide pure, mixé à une incompétence et une inconscience sauvage. Ah, vous êtes prévenus. Ça s'appelle Little Doggy. C'est donc tiré du premier album sous le nom de Yahoo 13. Fazerio de Tovoco. C'était en 73.
Thank you. Well, we get it on most every night. And when that moon gets big and bright, it's supernatural, the light. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things light. Everybody dancing in the moonlight.
Everybody dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and light. It's such a fine natural sight. Everybody dancing in the
un peu de nos émotions, une petite douceur pop, un peu anodine mais pas désagréable, par un groupe qu'on n'a jamais passé a priori, qui s'appelait Bofalongo, en un seul mot, Bofalongo, de New York, de la région de New York, qui ont fait deux albums entre 69 et 70. Ça, c'est un extrait du deuxième, appelé Beyond Your Head, en 1970. Par la suite, certains membres sont allés à Paris, ils ont formé King Harvest, qui a eu quelques tubes en reprenant d'ailleurs des morceaux de Bofalongo. Et d'autres membres ont formé un groupe appelé Orléans ou Orleans. Et peut-être qu'ils sont allés à Orléans, j'en sais rien. J'ai retrouvé ce morceau sur une compile, je sais pas d'où je sors cette compile. Je sais pas, c'est peut-être Tommy Boy qui m'a fait filer ça. Une compile appelée Pop 2000 du label United Artists France, Liberty United Artists. Qui a sorti ça dans les années 70, hein, qui précise sur une note de pochette que Pop 2000 est une opération lancée par le label pour mieux faire connaître des nouveaux groupes pop américains, anglais, allemands et français. Il y a Omondul notamment là, sur cette compile. Toutes ces formations ont été acclamées par les critiques les plus exigeants, qui les jugent comme appartenant d'ores et déjà à l'élite internationale, celle qui détermine l'avenir de la musique pop. C'est ce que prétendent les notes de pochette. Bon, Cochise, Bofalongo, Total Issue, Wild Butter. Ils n'ont pas eu une carrière quand même si fantastique que ça. Il y a aussi O'Queen sur cette compile, bizarrement. High Tide, qu'on a dû passer quelques temps. Et Damnation of a Damn Blessing, que Tommy Boy a passé, je me souviens, il n'y a pas très longtemps aussi. Voilà, donc, une petite découverte. Ça mange pas de pain parce que là, attention, on replonge dans l'univers de Yahoo 13. Donc, ce groupe formé par The Source Family et la secte de Father Yod, qui, alors, sur une des pochettes de disques de Yahoo 13, on voit tout de suite, disons, quel est l'objectif premier de Father Yod. On le voit sur le recto de la pochette, en gatefold, hein. Alors, c'est-à-dire qu'il est sur les deux versants de la pochette, là, une magnifique photo très grande, où on le voit torse nu, avec sa grande barbe, en train de tendre une coupe contenant sans doute un liquide mystérieux à une jeune fille allongée, complètement nue. Et on se dit que bon, voilà, The Source Family, c'était un peu le rêve hippie de l'amour libre et de surtout le gourou qui essaie de se faire le plus de jeunes filles possible. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait d'autres ambitions mystiques tout à fait respectables, hein, mais bon. Quand Father Lode est mort, là, en 75, Hero a sorti, il a continué à sortir des disques en changeant occasionnellement de nom. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh ben, le premier où Sky Saxon est officiellement indiqué sur la pochette comme musicien du groupe, c'est un album sorti sous le nom de Fire, Water, Air. Feu, eau, air. Un album appelé Golden Sunrise, donc c'est en 77. Mais il circule aussi sous le nom de Yahoo 13, hein, pour clarifier les choses, disons. Et on va s'écouter un extrait de cet album, avec, je pense, Sky Saxon aux vocaux. Et ça s'appelle Wolfpack. Et c'était pas vraiment calmé, hein.
Yeah. just like Bob Dylan said, let your dogs run free. Come on, children of the sun, got to get out of this place. Can't take much more of the human race. Wake up, wake up.
Du groupe Fire Water Air alias Yahoo 13 avec Sky Saxon en 77. Je précise que c'est une bande dessinée qui m'a fait découvrir ce groupe appelé Underground, dont j'ai oublié le nom des auteurs, mais je vous en reparlerai. Qui explore le, un petit peu le haut de l'underground quand même. Hein. Jonathan Richman, Kevin Coyne, les Cramps, Sun Ra et Sky Saxon donc. Et c'est là que j'ai découvert ce groupe totalement incroyable, dont on reparlera aussi, j'en ai bien peur, de temps en temps. Et bah, ça va être la dernière ligne droite de l'émission, notre petite rubrique folk, dont on va se mettre le jingle tout de suite. Si j'arrive à le retrouver, Tommy Boy me surveille, oui c'est bon, je l'ai. La rubrique fromage de chèvre avec aujourd'hui quelqu'un qu'on n'a jamais passé non plus dans l'émission. Enfin, j'ai pas vérifié, mais je ne crois pas. Et que j'ai découvert aussi grâce à une bande dessinée qui est sortie récemment, qui porte le nom de l'artiste Judy Seal, signé Alonso, je sais plus quoi, et Diaz Canales, je sais plus, il faudra que je vérifie. Alonso Iglesias, je crois. Une bande dessinée qui a eu un prix à Angoulême, je crois, la dernière édition d'Angoulême, du festival de BD, et qui était une artiste là aussi incroyable, on pourrait en parler pendant des heures, enfin le destin de cette Judy Seal est totalement incroyable. Juste pour résumer, parce qu'il est tard, là, que on se la réécoutera dans les prochaines émissions sans aucun doute, bah, elle est née à Auckland en 44, c'était... dans une famille où les parents étaient un peu en bisbille, le père avait un métier étonnant, il était importateur d'animaux, il allait les chercher au Mexique pour les revendre dans les animaleries. Il est mort prématurément, elle a perdu sa mère aussi assez tôt et son frère aussi. Elle était condamnée pour braquage à main armée alors qu'elle était encore mineure. 9 mois en maison de correction, on l'a collée à l'orgue d'église parce que son père avait un bar et elle avait appris le piano. Et elle était fascinée par cet instrument, elle en jouait merveilleusement bien. Et donc ces 9 mois de maison de correction, elle allait à l'église pour jouer de l'orgue. Ça lui a permis d'acquérir une certaine culture, disons, plus classique. Et puis elle est tombée dans les LSD, puis après dans l'héroïne, alors elle est retombée dans les braquages, la fraude, la prostitution. Hop, un petit passage en prison. Elle sort, elle rencontre Nash et Crosby. Elle leur... chante certaines de ses chansons, elle commence à écrire des chansons, elle en vend une aux Turtles, Lady O. Et finalement, elle signe pour un contrat sur le label de David Geffen, qui venait juste de lancer le label Asylum. Ce sera la première artiste à sortir un album sur Asylum. Mais elle se brouille avec lui, pour différentes raisons dont on reparlera. et il enregistre un troisième album, mais qui ne sortira jamais, qui sortira beaucoup plus tard. Il reste inachevé en 1974. Après, bon, elle arrête un peu la musique, elle a des accidents de voiture à répétition, elle a une blessure grave au dos qu'elle n'arrive pas à guérir. Elle est accro à nouveau à la codéine, à la cocaïne, elle meurt en 1979 d'overdose. Et sa mort passe totalement inaperçue, alors qu'elle avait eu un tube quand même sur son premier album, que tout le monde dans le milieu musical folk l'admirait. Elle avait tourné en Angleterre notamment, elle était passée à la BBC. Sa mort est passée totalement inaperçue et cette Judy Seal est réhabilitée là, depuis quelques temps avec cette BD, mais aussi avec un documentaire qui a été fait relativement récemment et qui s'appelle Lost Angel, The Genius of Judy Seal, où on entend Linda Ronstadt, Graham Nash, David Crosby un petit peu avant sa mort, David Geffen parler de cette Judy Seal qu'on va écouter dans les semaines qui viennent dans les Bébés Dino. Alors, c'est du folk, mais assez lumineux. Elle a eu un destin quand même incroyable et assez terrible. Et pourtant, sa musique est, je sais pas, assez magique, assez pure, très belle. Elle aurait pu avoir une carrière phénoménale. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça pour elle. On s'écoute, pour conclure cette émission, un morceau extrait du premier album de Judy Seal en 71, qui n'avait pas de titre. Le morceau s'appelle « The Lamb Runaway with the Crown ». Et on se dit à la semaine prochaine. J'ai oublié de dire que le Bébé Dinosaure, c'est tous les dimanches soirs de 21h30 à 23h sur Canal Sud 92.2. Et que vous pouvez écouter la rediffusion à 15h30 le lundi, toujours sur Canal Sud 92.2. Que sur le site de Canal Sud, canalsud.net, vous avez des centaines d'émissions à écouter ou à télécharger. Et idem sur le site Facebook des Bébés Dinos. Donc si vous vraiment ne savez pas quoi faire, allez-y. Il y a quelques heures de musique 70s à vous mettre entre les oreilles. Et... quelle musique! Judy Seal pour conclure, et je vous dis à la semaine prochaine avec normalement le retour de Tommy Boy. Je cale le petit morceau et c'est parti.
Once I heard a serpent remark, if you try to evoke the spark, you can fly. I drew my sword and got ready, but the lamb ran away with the crown. So I drew my sword and got ready, but the lamb ran away with the crown. Ba-da-da, though the beast within me's a liar, he made me glow with a strange desire, and I rode on the fire with a blue sacred opal to bless the battleground. But I turned to see its reflection, and the lamb ran away with the crown. But I turned to see its reflection, and the lamb ran. In my brow, I screamed and wailed and I cursed out loud, and I sailed through the clouds on 10 crested cardinals to guard my battleground. But I laughed so hard I cried, and the lamb ran away with the crown. But I laughed so hard I cried. So and the lamb ran away with the crown.
to come back. I want him to come back. Yeah, that's right. Tell him to come back.
I'll come back. You know I'm back to stay. Cause I'm just your little dinosaur. And I could never really go.
No.
Never really go.
He's back.
Never really go.